George Eastman, l'homme sauvage. La pluie tombait de rues inlassables, désespérantes. L'auberge paysanne où j'attendais la fin de l'averse était déserte, sale et maussade, l'hôtesse vieille et revêche. Pas un journal à parcourir, pas un paysan à faire causer pour tuer le temps. L'ennui, le morne ennui, m'accablait lentement quand un homme entra dans lequel je pressentis aussitôt un être pas ordinaire. Malgré la pluie qui alourdissait son manteau, la boue épaisse qui engluait ses guêtres, malgré ses mains gourdes et rouges, malgré son visage ruisselant, il semblait être d'excellente humeur, me salua d'un vibrant et joyeux « Bonjour, monsieur l'âme !» bien que je fusse absolument seul. L'hôtesse, ayant montré sa face maussade derrière le comptoir, il commanda un verre de vin, puis au moment de le porter à ses lèvres, le lâcha et le rattrapa à 10 centimètres du sol, sans qu'aucune goutte de liquide n'en fût échappée. Il prit le bord entre ses dents, but d'un trait sans le secours de ses mains, lâcha le verre de nouveau, se baissa pour le ramasser et se releva tenant 2 verres vides au lieu d'un. Tout cela était fait très tranquillement, comme la chose la plus naturelle du monde. La cabaretière considérait d'un œil ahuri et méfiant ces extraordinaires manigances. L'homme lui tendit une pièce de 20 sous qui disparut au moment où il voulait la prendre et qui lui tira du nez avant que la vieille fût revenue de sa stupeur. Ayant ainsi démontré qu'il n'était pas le premier venu, l'homme s'avança de mon côté, salua en face, à gauche, à droite, comme un régisseur qui va faire une annonce, puis déclara, volubile et souriant, « Mais tout ceci n'est rien, mon cher monsieur, moins que rien. La petite bagatelle de la porte destinée à attirer votre attention sur mon humble personne. Tel que vous me voyez, j'ai l'honneur de présenter la fameuse maison John Morgan & Company, la plus grande usine de crayons qui soit au monde, le seul fabricant à raison de 2 milliards de pièces par jour, les célèbres crayons WTCH, la célèbre marque sans rival, inégalable et insaisissable pour le bureau, le dessin, la comptabilité, l'architecture et les lettres d'amour. Dans les grands magasins de New York, de Londres, de Vienne, de Saint-Pétersbourg, ces crayons se vendent 75 centimes la pièce, pas un sou de moins. Et moi, pour faire connaître au public français ces crayons merveilleux dont on vient de charger 3 transatlantiques qui arriveront au Havre la semaine prochaine, je ne les vends point, je les donne à titre de réclame et de publicité pour la somme minime et ridicule de 20 sous la douzaine seulement. Combien de dizaines, monsieur, en désire-t-il ? Il sortit de sa poche une poignée d'énormes cylindres en sapin, noueux, mal rabotés, mal teintés, mal vernis, marqués au bout par la tache oblongue et grise d'une large lame de plomb, et me les tendit d'un air engageant. À mon tour, je tirai un crayon de ma poche. Voici, lui dis-je, la marque que j'emploie d'habitude. Ce crayon ne coûte que 7 sous dans tous les magasins. Pourtant, il est en bois de cèdre, essence bien préférable au sapin dont sont faits les vôtres, et contient une mine en vénérable, véritable graphite de Sibérie, de qualité infiniment supérieure au plomb qui emploie votre fabrique. Sans insister, avec une parfaite bonne grâce, le camelot rempocha sa camelote. « Du moment où monsieur s'y connaît mieux que moi, dit-il avec un bon rire. Puis, s'asseyant familièrement à ma table, il ajouta : Vous savez, c'est pas ma partie, les rayons. Et je fais un peu de tout. Je suis banquiste, quoi. Alors, dans le métier, on a des hauts et des bas. On fait une chose aujourd'hui et demain une autre. Tel que vous me voyez, j'ai dirigé un grand théâtre forain et tenu un manège de chevaux de bois. Ça n'empêche pas qu'hier, je me suis trouvé sans emploi, sans domicile, sans espoir, avec 40 sous comme mise de fond. C'est pas avec ça qu'on fait la pige à une imparc. Alors j'ai entrepris un petit commerce de crayons. Affaire médiocre, cher monsieur, très médiocre. Mais basta, les beaux jours reviendront. Vous avez été éprouvé par un sinistre, un incendie ? Demandai-je. Un incendie, monsieur, pire que cela, 100 fois pire. Un cataclysme inouï, inattendu, impossible à prévoir ou à réparer. Avant un incendie, on s'assure. Après, on reconstruit. Mais contre ce qui vient de m'arriver, il n'y a rien à faire, entendez-vous ? Absolument rien. Puis, m'ayant ainsi alléché, sûr de tenir un auditeur pour l'histoire qu'il allait évidemment envie de raconter, il reprit. Figurez-vous, monsieur, que j'avais déniché le véritable homme sauvage. Oh, pas un sauvage qui mange simplement du feu, comme vous et moi pourrait le faire, ça c'est de la blague. Mais une vraie brute, qui mordait à pleine mâchoire dans les rats et les lapins vivants, à la seule condition d'avoir ses 6 absinthes et ses 3 litres de vin par jour. Pour de l'absinthe, voyez-vous, on lui fait boulotter le cadavre de son père, à ce gaillard-là. Oh, quel numéro épatant! Donc je l'engage, je l'éduque pendant 15 jours au grand, et quand il ne comprenait pas les exercices les plus simples, une vraie brute, vous dis-je. Je lui achète un costume où il y avait des plumes et du paillon pour plus de 50 francs. Je le loge, je le nourris, je le saoule, je le gave. Un vrai coq en pâte, quoi. Oh, il me coûta chaud, mon sauvage. Mais je croyais tenir la fortune avec un numéro comme ça. Enfin, je loue une loge et je m'installe sur une foire de village, ici près, risquant dans l'affaire jusqu'à mon dernier sou. Tout marchait comme sur des roulettes, tant superbe public gommeur à plaisir. J'avais composé un boniment magnifique avec les hurlements du sauvage qui faisait la basse derrière la toile. Bon, ce n'était pas mon homme qui hurlait, bien entendu. Il était trop occupé à siffler son absinthe. Mais j'avais mieux que ça, un phonographe impressionné chez un dompteur de mes amis, un jour où ces 5 lions avaient la colique. Ça faisait un effet, mon cher. Oh, un effet! Et en 5 minutes, la loge fut pleine. Je lui refusais du monde. Enfin, j'entre en scène. J'affirme au public qu'il n'y a presque pas de danger, que le sauvage est attaché solidement. Je supplie les dames de ne pas s'évanouir de terreur et les messieurs de ne pas s'enfuir d'épouvante. Puis le rideau se lève, mon sauvage apparaît, enchaîné à un poteau, et se précipite comme pour me dévorer, tandis que je le tiens en respect en braquant sur lui mon revolver. Fallait voir le public, monsieur, des yeux comme des portes cochères, des bouches à y entrer en biplan sans toucher les bords. Alors, j'allume une torche pour le repas du sauvage, parce qu'il faut toujours commencer par là. Personne n'ignore que c'est du chiquet. Tout le monde a vu les puritains cracher les flammes aux terrasses des boulevards. Mais le public est traditionnaliste, et un homme sauvage qui ne mangerait pas du feu ne serait pas un homme sauvage. À ce moment, j'entends crier dans le fond de la salle. Eugène, Eugène, veux-tu bien venir ici tout de suite? Je me retourne et je vois une petite vieille, grosse comme 2 sous de beurre, qui se précipite vers la scène. Elle bascule, bouscule les spectateurs, enjambe les banquettes, culbute mon chef d'orchestre. Et l'orgue de Barbarie, dont tournait la manivelle, se fait un marchepied de l'instrumentiste, puis de l'instrument saute sur la scène, bondit sur le sauvage, et commence à lui enflanquer, monsieur, et à lui en dire: C'est ici que je te retrouve, vaurien! Paf, un coup de pied. C'est pour faire ce beau métier-là que tu t'es sauvé de la maison. Pan, un coup de poing. T'aimes donc mieux manger du feu dans toutes les foires que du pain chez ta mère, propre à rien, et pan, un enfoncement. Fous le camp à la maison, Eugène. Pan, pan, une paire de calottes. Fous le camp, bien vite. Que je te gratte tout cirage en quatre gueules avec étrille à bon marais. Et là-dessus, elle décroche les chaînes du sauvage, lui envoie un coup de pied au derrière qui le précipite dans la toile de fond. La tête se déchire, mon sauvage passe au travers et tombe à l'extérieur de la loge. Sa mère saute après lui pour continuer à taper dessus et ils étaient disparus tous les deux avant que j'eusse songé à intervenir. Des abrutis, monsieur. Le public m'engueulait, oh, fallait voir. On a presque démoli la banca, baraque. J'ai dû rendre la recette, payer des locations, des indemnités, tous mes frais de mise en train, que dis-je. Bref, j'y ai laissé jusqu'à mon dernier sou. J'ai même pas osé aller chez la mère du sauvage pour lui réclamer le costume de plumes et de paillons qu'il avait emporté, car je ne voudrais pour rien au monde affronter de nouveau cette terrible petite vieille femme. Voilà pourquoi je vends des crayons, monsieur, après m'être ruiné dans une affaire qui devait me rapporter des rentes. Il se tut. Je lui exprimai mes sincères condoléances, en ajoutant qu'il retrouverait sans doute un autre sujet, non moins brillant. Mais il secoua mélancoliquement la tête. Oh non, soupira-t-il. Je n'y compte pas, monsieur. Les vraies brutes deviennent de plus en plus rares. Il n'y a pas au monde 2 hommes sauvages comme celui que j'ai perdu. Il avait toutes les qualités, ce cochon-là. Il n'avait hélas qu'un défaut, celui de ne pas être orphelin.